Il est 6h19, une fusée de SpaceX a décollé cette nuit de Floride direction la Station Spatiale Internationale. 4 astronautes sont à bord. C'est la première fois que la NASA confie une telle mission à une entreprise privée. Bonjour Xavier Pascaud.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, responsable du pôle espace au sein de cette fondation. Il y a déjà eu un premier vol en mai dernier, mais c'était juste un test, c'est ça? Là, c'est vraiment le mode de fonctionnement, la mission définitive.
Voilà, là c'est le premier vol opérationnel. Bon, le vol qui avait eu lieu quelques mois auparavant, c'était un vol de certification, en fait de qualification. Alors évidemment avec deux astronautes à bord, cette fois-ci on a 4 astronautes, donc dans la configuration nominale, comme disent les ingénieurs.
Et en quoi cette mission est-elle exceptionnelle alors? Elle l'est à plusieurs titres, hein.
Elle l'est à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'on entre dans une ère un petit peu nouvelle finalement, où les industriels ne sont plus seulement des sous-traitants construisant les fusées pour la NASA qui les mettent en œuvre, mais désormais ils construisent les fusées avec d'ailleurs beaucoup de latitude, hein. L'agence spatiale leur laisse finalement beaucoup de latitude sur le choix des techniques, sur le type de fusée, et puis ensuite ils vendent le service à la NASA, c'est-à-dire qu'on a là presque une société de transport finalement à laquelle la NASA achète un service. Alors c'est très différent de l'arrangement avant. Ce qui est très particulier aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, la relation entre le gouvernement et les industriels du spatial s'est reconstruite autour de quelque chose de plus partenarial, on dirait. C'est un peu le mot qui est utilisé là-bas désormais.
Et pourtant, là, en l'occurrence, SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, a reçu énormément de financements publics.
Absolument. On n'est pas en train d'assister à une privatisation de l'espace. Souvent, on fait un peu la confusion. Alors peut-être Elon Musk et SpaceX lanceront sur leur propre denier un jour des touristes un peu spéciaux, privés, ayant beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les missions dont on parle, ce sont des missions de dessert de la station spatiale qui sont payées par, j'allais dire, l'argent du contribuable américain, en l'occurrence. Et puis SpaceX et d'autres sociétés privées ont bénéficié évidemment beaucoup d'investissements publics.
Et quel est l'intérêt pour la NASA de fonctionner ainsi, plutôt que de faire fabriquer avec justement ces fonds en interne une fusée?
Alors en fait, bon, il est apparu que la NASA, qui a par ailleurs un programme aujourd'hui d'exploration de la Lune, par exemple, bien sûr d'autres programmes choisissent de garder le mode traditionnel. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour, dans les années récentes, autour de programmes qui avaient beaucoup de retard, qui ont beaucoup de surcoûts, et en choisissant comme ça de confier à un industriel, de déléguer, un service public à un industriel, eh bien les contrats sont fixes, hein, ne peuvent pas être changés, et donc eh bien l'industriel doit, dans une enveloppe données, réaliser le service, hein, offrir le service. Et ça a prouvé visiblement aujourd'hui, ça fait ses preuves, puisque pour un montant fixé à l'avance, eh bien le service est arrivé.
Donc le service est arrivé, mais est-ce que c'est tout aussi fiable? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de confidentialité? Est-ce que voilà, tout fonctionne correctement?
Alors, pour l'instant, les choses ont l'air de fonctionner correctement. Bien sûr, le jour, malheureusement, on peut toujours s'attendre à un échec et on aura peut-être une remise en cause de tout cela. Aujourd'hui, on ne voit pas, effectivement, il y avait beaucoup de doutes, hein, sur précisément, on va dire, la tentation du secteur privé éventuellement de couper dans les virages sur certaines fonctions de sécurité. En fait, il se trouve que la NASA est restée tout à fait présente dans la certification de sécurité de ses vols. C'est-à-dire qu'elle supervise sur l'ensemble du programme, elle supervise évidemment en particulier les aspects de sécurité. La NASA demeure garante finalement de la sécurité des vols. Mais en revanche, on n'a pas assisté, on doit le dire aujourd'hui, à un équilibre différent en matière de sécurité lié au fait que le secteur privé ait pris la main.
Est-ce que ça veut dire aussi que la NASA va totalement arrêter sa collaboration avec les Russes, qui étaient ces dernières années les seuls capables d'envoyer des hommes dans l'espace?
Alors, pour cette fonction particulière, oui, en réalité, c'était là la pression politique. C'était depuis des années, cette dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Russie pour le transport de leurs propres astronautes était très très mal vécue politiquement. Donc c'est la première raison pour laquelle, après l'interruption de la navette spatiale, le gouvernement Bush d'abord, hein, on doit dire, puis ensuite Obama, ont vraiment investi dans ces nouveaux moyens. Il a fallu 10 ans pour que les Américains reviennent dans le jeu, j'allais dire. Alors en revanche, pour ce qui est de la coopération plus générale, non, bien sûr, la Russie est une grande puissance spatiale et les États-Unis sur leur programme futur auront des moments de coopération. Mais sur cette fonction-là, oui, le but c'était vraiment de reprendre la main, de reprendre une forme d'indépendance très très symbolique pour les États-Unis.
Et cette conquête spatiale, est-ce que c'est encore un match à deux ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui pointent le bout de leur nez?
Non, non, bien sûr. On n'est plus dans la guerre froide. Hein. Si l'espace est né de la guerre froide, aujourd'hui, il vit dans un paysage, j'allais dire géopolitique, stratégique, totalement différent. Néanmoins, on a toujours les deux grandes puissances, États-Unis et Russie, les deux grandes puissances spatiales, qui continuent leurs activités, mais il y a surtout la Chine, qui est en train d'investir très très massivement dans tous les domaines spatiaux, satellites, vols habités, etc., exploration. Il y a l'Europe, évidemment, qui est là depuis maintenant pas mal d'années et qui intervient aussi dans l'ensemble des programmes, alors de manière un petit peu plus coopérative. Hein, l'Europe n'a pas, par exemple, d'autonomie d'accès à l'espace pour ses propres astronautes, mais elle l'est intégrée dans différents programmes qui lui permettent d'envoyer des astronautes dans l'espace. Et puis, de plus en plus d'autres pays qui arrivent. On voit l'Inde, par exemple, qui investit beaucoup, qui a aussi un programme lunaire, par exemple, et on voit d'autres pays qui commencent à pointer le bout de leur nez, j'allais dire. Même les Émirats Arabes Unis ont aujourd'hui un programme d'exploration des planètes et de la Lune.
J'aimerais juste revenir sur la Chine. Qu'est-ce qu'elle prépare exactement? Vous nous dites qu'elle vise à peu près tous les secteurs ou tout ce qui est possible de faire dans l'espace. Dans un avenir proche, qu'est-ce qui va se concrétiser le plus vite pour elle?
Alors la Chine, bon, le plus symbolique, si vous voulez, la Chine d'ici quelques années souhaite, imiter ou tout au moins suivre un peu les États-Unis dans leur volonté de mettre des hommes sur la Lune. Hein, la Chine a ce programme. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça en est. En Chine, on communique un peu moins sur ces programmes, mais on a effectivement la certitude qu'aujourd'hui, la Chine a un programme lunaire, un programme habité. La Chine aussi investit beaucoup aujourd'hui dans les orbites, dans l'orbite basse, avec beaucoup de satellites qui sont envoyés. Vous savez que du côté américain, Elon Musk, SpaceX envoie aussi des milliers de satellites en orbite, par exemple, pour faire des télécommunications. Eh bien, la Chine a des programmes similaires aujourd'hui avec des sociétés, alors qui sont des sociétés présentées comme privées, mais qui ont un rapport particulier avec le gouvernement chinois également. Donc, toutes ces sociétés investissent. On sent que la Chine veut vraiment, j'allais dire, cocher toutes les cases de la puissance spatiale de manière un peu accélérée. Hein. Elle n'a pas l'antériorité historique sur ces programmes, mais en revanche, elle essaye de rattraper un peu la course. Et aujourd'hui, la Chine devient l'un des grands pays spatiaux, puisque la Chine est l'un des trois pays capable d'emmener un de ses astronautes en orbite de manière autonome.
Merci Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous étiez l'invité du 5-7.